rencontre avec Thomas Guénolé autour de son livre « Les jeunes de banlieue mangent-ils des enfants ?» aux éditions Le Bord de l'eau. Thomas Guénolé est docteur en sciences politiques. Il est maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris et chroniqueur politique. Depuis mars 2015, il tient une chronique d'analyse et d'éditorial politique intitulée « Guénolé, c'est du concret » sur RMC chez Bourdin Direct.
Je suis politologue et enseignant, principalement enseignant à Sciences Po, où j'ai d'ailleurs monté récemment, là depuis septembre, un cours sur le racisme et les discriminations en France, ce qui est une première en fait, ça n'existait pas à Sciences Po auparavant. Par ailleurs, donc, j'ai des activités d'éditorialiste, principalement sur RMC, où j'officie tous les matins, du lundi au vendredi, à 7h20. Ça s'appelle Guénolé du concret, ça sert à se saisir de sujets d'actualité politique pour prendre le problème qui se pose et proposer des solutions concrètes, après avoir identifié précisément quel est le problème. Par ailleurs, dans mes autres activités, j'ai des activités de conseil auprès de personnalités politiques et j'ai des activités aussi de chroniques, de tribunes, enfin bref, de répondre aussi à des interviews d'analyse politique pour simplement nourrir le débat par des analyses sur ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe, des activités de décryptage finalement. Et donc ma dernière activité, et de loin ma préférée, c'est celle qui consiste à écrire des essais. Le dernier en date étant donc « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» et à titre personnel, en tant qu'auteur, c'est mon préféré.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce livre aujourd'hui ?
En fait, il y a 6 mois, je ne savais pas que j'allais faire ce livre. Enfin, il y a 6 mois, il y a 10 mois. En réalité, ça a été une touche puis l'autre qui me conduit à le faire. On peut croire à la fatalité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est en été 2014. En été 2014, vous, je sais pas, mais moi, quand je suis en vacances, je coupe tout. Donc, téléphone, radio, etc., tout. Et donc, avec mon épouse, on était totalement déconnectés de l'actualité pendant à peu près 2 semaines. Et quand on se reconnecte, c'est au moment des grandes manifestations de l'été dernier autour du conflit israélo-palestinien. Et donc, en marge de ces manifestations, vous aviez quelques manifestations où il y avait eu de la casse, et c'était le fait de quelques casseurs, de quelques vandales, et surtout de quelques excités, qui étaient dans un trip d'identification à la jeunesse palestinienne, qui étaient là avec le kéfier, le truc, enfin ils étaient ridicules. Vous vous souvenez de cette photo où ils étaient torse nu avec la pile de bidons en flammes, et cette photo-là a fait la une d'un certain nombre de médias. Et quand moi je me reconnecte, c'était le soir, hein, on rentre tard de vacances, on se reconnecte à ce qui se passe, je regarde ce qu'il y a, et c'est un déluge de ce que je n'appelais pas encore, mais que j'appellerai plus tard la balianophobie, c'est-à-dire un mélange de peur et de haine envers le jeune de banlieue, le monstrueux jeune de banlieue, et donc là c'est la totale. Les djihadistes de banlieue, l'islam des banlieues, les caches d'armes, enfin le gros, bon gros délire bien haineux de toujours la même poignée d'intellectuels, poignée d'éditorialistes, poignée de quelques journalistes aussi, ils sont une vingtaine à tout casser, mais ils font énormément de dégâts. Et donc c'est dans ce déluge-là que j'ai fait une première tribune qui était un coup de gueule, qui était « Djihad des banlieues, islam des banlieues, arrêtons de dire n'importe quoi », c'est le titre. Et c'est Libération, libération.fr qui a publié ça. Et à partir de là, ça a eu un gros succès d'ailleurs cette tribune, et à partir de là j'ai commencé à me documenter systématiquement sur le mythe du monstrueux jeune de banlieue en tant que bouc émissaire et croque-mitaine des temps modernes. Donc j'ai fait ça pendant quelque chose comme 6 mois où je me documentais, je réfléchissais, j'avais ça à l'esprit. Et en début février, donc je suis déjà en train de travailler là-dessus, et début février, je passe la deuxième couche, c'est-à-dire « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» et c'est un texte de démonstration par l'absurde de la stupidité raciste et haineuse du cliché sur le monstrueux jeune de banlieue, voilà, qui passe son temps en fait à violer des filles, à brûler des voitures. En fait, c'est un jeune arabe, grand gaillard, ou black d'ailleurs, mal rasé, qui est là pour violer votre fille, ou votre femme d'ailleurs, brûler votre voiture, voler votre bien, frauder les allocs, partir pour faire le djihad, planquer des armes, dealer du shit, que d'ailleurs il cultive lui-même, et enfin bref, toutes les tares possibles et imaginables de la société, il les concentre, parce qu'il concentre sur lui la peur des jeunes, la peur des arabes, la peur des musulmans, la peur des noirs, et tout ça, et la peur des pauvres, et tout ça est concentré dans ce cliché-là. J'ai décrit ça en février. Peut-être une semaine plus tard, je reçois un coup de fil de l'éditeur, Bordelot, qui me dit « Ça, est-ce que vous pouvez nous le faire sous forme de livre ?» J'accepte immédiatement, parce que finalement, les tribunes que j'ai faites, c'était pas... Parce que j'avais un ressenti physique insupportable de nausée par rapport à l'abondance de ces clichés-là, qui sont vraiment insupportables pour peu qu'on ait un minimum d'empathie humaine. Et là-dessus, donc ayant dit « Ok » à l'éditeur, au bout de quelques jours à peine, je lui ai dit « Je ne peux pas me contenter de faire quelque chose qui démolit les clichés, il faut que j'aille enquêter et me documenter sur ce qu'il y a derrière. » Et donc je raconterai, un, le cliché, deux, ce qu'il y a derrière les clichés, et 3, les sujets qui sont des vrais problèmes des vrais jeunes de banlieue et dont on ne parle pas. Et donc le livre est construit comme ça, il y a un peu 3 temps dans le livre.
Et quand vous dites ce qu'il y a derrière ?
Alors ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que les clichés, d'abord les clichés d'où ils viennent, pourquoi ils existent, qui les aimait et pourquoi. Donc je parle des intellectuels, je parle des médias, je parle du cinéma. Le film Intouchable est épouvantable par exemple à ce niveau-là. C'est quand même le personnage principal joué par Omar Sy, c'est un type qui est un délinquant, fraudeur aux allocs et dealer de shit. Et donc il va être remis sur le droit chemin en rencontrant un bourgeois de la haute. Et il arrivera peut-être à récupérer juste à temps son petit frère, qui est un petit collégien, qui s'apprête à faire quoi ? Bah, à quitter l'école pour aller dealer du shit, parce que c'est bien connu, c'est ça le profil majoritaire dans la population. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Il y a plus de 97% des vrais jeunes de banlieue qui ont jamais dealé de shit de leur vie. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, quand j'ai construit le bouquin, il y a d'abord un... déconstruire les clichés, expliquer qui les produit avec des intellectuels comme Alain Finkielkraut par exemple, qui est obsessionnel à ce niveau-là. En deuxième temps, raconter la réalité derrière les clichés sur les sujets dont on parle quand on parle du monstrueux jeune de banlieue, l'islam, l'insécurité, etc. Dire ce qu'il y a derrière en réalité. L'islam dans les banlieues n'est pas du tout celui qu'on imagine, mais vraiment pas. Et enfin, parler des problèmes prioritaires dont on ne parle jamais. Le chômage, la précarité, la pauvreté, la ségrégation scolaire, l'homophobie, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai construit ce bouquin. Et cerise sur le gâteau, ça n'était absolument pas lié, mais il se trouve qu'il y a eu la polémique autour du livre « Qui est Charlie ?» qui a éclaté alors que j'étais en train d'écrire mon manuscrit. Et parce que j'ai de l'admiration pour Emmanuel Todd, admiration intellectuelle depuis longtemps, j'ai pris sa défense. J'ai été conduit à le rencontrer, parce que ça l'avait touché qu'il y ait des gens que je prenne sa défense dans cette controverse. Et donc, on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, je lui ai proposé de faire la préface parce qu'en 2005, je me suis souvenu qu'en 2005, il avait été le premier et l'un des rares grands intellectuels français à prendre la défense des jeunes de banlieue en disant notamment « c'est pas des émeutes, c'est des révoltes ». Et donc, je me suis dit « il est parfait ». En termes de légitimité intellectuelle, pour préfacer le livre, il a accepté. Et donc, quand vous mettez toutes ces planètes-là bout à bout, vous avez pourquoi ce livre, pourquoi cette préface d'Emmanuel Todd, pourquoi le livre arrive à ce moment-là, etc. C'est comme ça que ça s'est fait, voilà, vous savez tout.
Nous sommes toujours en compagnie de M. Thomas Guénolé pour son livre « Les jeunes de banlieue mangent-ils des enfants ?» aux éditions Le Bord de l'eau. Mais en termes de déconstruction, comme vous disiez, qu'est-ce qu'il y a derrière comme stratégie ?
C'est pas forcément une stratégie, c'est ça le pire, c'est-à-dire que c'est plus de l'ordre de l'accumulation de clichés, c'est une peur de synthèse en réalité, c'est-à-dire qu'on a un grand intellectuel, René Girard, qui est mort récemment, qui a fait des travaux sur le bouc émissaire. Eh bien, le monstrueux jeune de banlieue, c'est un bouc émissaire. Vous prenez tous les problèmes de la société en termes de comportement, et vous les concentrez dans le monstrueux jeune de banlieue, qui ne correspond pas, encore une fois, au vrai jeune de banlieue. Donc le monstrueux jeune de banlieue, il est jeune, il est pauvre, il est musulman, il est violent, il est fraudeur, il ne veut pas travailler, il ne veut pas s'intégrer, il est plein de haine envers la France, c'est un partouzeur, c'est un jouisseur, c'est un feignant, c'est tout ce que vous voulez. En fait, vous prenez toutes les tares qu'on peut avoir dans une société, tout ce qu'il est mal d'être ou de faire, et le monstrueux jeune de banlieue le fait. C'est le Satan médiéval, en fait, de notre temps.
Mais pourquoi la construction de ce bouc émissaire ? C'est ça que je voulais vous poser.
Pourquoi la construction
question.
De ce bouc émissaire ? C'est dans n'importe quelle société, vous en avez un. C'est inhérent à une communauté humaine. Vous prenez n'importe quelle communauté humaine, vous avez dedans une figure fantasmée du bouc émissaire. Pourquoi lui ? Parce que c'est une synthèse de toutes les peurs et de toutes les haines des classes moyennes et supérieures de la société française, c'est-à-dire un mélange de peur et de haine envers les jeunes, envers les pauvres, envers les arabes, envers les noirs et envers les musulmans. Résultat, ce qu'on appelle par euphémisme le jeune de banlieue, les jeunes de banlieue, en fait c'est quoi ? C'est les jeunes pauvres arabes ou noirs de confession musulmane. Voilà, et d'ailleurs ce sont des garçons. Vous avez remarqué que dans le monstrueux jeune de banlieue, c'est toujours un mec. Ouais. Alors que la moitié des jeunes de banlieue, je voudrais le rappeler, sont des filles. Et d'ailleurs, la moitié des jeunes de banlieue, plus de la moitié des jeunes de banlieue, ne sont pas musulmans. Et ne sont ni arabes, ni noirs. Et j'ajouterais que quand on met bout à bout les criminels, les délinquants, et même ceux qui sont dans des bandes errantes à tenir les murs, à s'emmerder, enfermés dehors, et qui ne sont pas particulièrement ni délinquants ni criminels, au total, en les comptant tous, c'est moins de 3% de la population. Et donc on ne parle que de cela. Je sais bien que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les médias, je sais bien. Néanmoins, il y a des problèmes très graves et massifs qui se posent pour énormément de jeunes de banlieue. L'article du Monde que vous citez a le mérite de remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là, de parler des vrais problèmes massifs, c'est-à-dire que délinquance, criminalité et bande de jeunes qui traînent dehors, c'est 3%. Par contre, le chômage, c'est plus de la moitié, et la précarité, c'est la totalité. Donc quel est le phénomène prioritaire à votre avis?
Non mais quand on parle, moi quand je vous pose la question sur pourquoi ce bouc émissaire, parce que souvent c'est une question qui est complètement instrumentalisée politiquement.
Ah oui, ça alors en fait, comment dire, vous savez c'est cette fameuse phrase « je suis leur chef donc je dois les suivre ». Et donc là l'idée, plutôt qu'une stratégie, il n'y a pas un grand complot, de la même manière qu'il n'y a pas un grand complot des jeunes de banlieue qui se réunissent dans des caves pour préparer le djihad, de la même manière il n'y a pas un grand complot anti-jeunes de banlieue où Finkielkraut, Zemmour et compagnie et les patrons des grandes chaînes de médias se réunissent dans une cave secrète. En fait c'est plus simple que ça, c'est-à-dire que les... comment dire... ces intellectuels-là, cette poignée d'intellectuels, cette poignée d'éditorialistes et les reportages qui vont être traités dans les médias ne sont là que simplement pour refléter les clichés et les peurs de leur public. C'est aussi simple que ça. Donc c'est... alors, qui a commencé? Est-ce que c'est ceux qui ont fabriqué les clichés qui les ont générés? Ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà présents dans la population qu'on les a confortés pour répondre à l'attente d'une clientèle? Ça, c'est l'œuf et la poule. Hein. Donc, pour mettre les pieds dans le plat... ça reste fondamentalement un problème de racisme. Et il y a d'ailleurs un cache-sexe qui est une tartufferie profonde quand on parle de, comment dire, de la question de l'islam, l'islam en France. D'abord, c'est pas l'islam en France, c'est l'islam français, merci pour lui. Et ensuite, on peut peut-être appeler un chat, on parle pas de l'islam, on parle des Arabes. Voilà, le problème qui est posé dans le pays, c'est la cohabitation entre les racistes et les Arabes. Voilà, à un moment, il faut dire les choses.
Si vous êtes intéressé par le livre de Thomas Guénolé, vous pouvez le commander sur le site des éditions Le Bord de l'Eau au www.editionsbdl.com. Reportage Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une opération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.
stay.